À leur retour aux États-Unis, Lee et Marina vivraient dans une triste succession d'appartements à loyer modéré, y compris celui que j'avais déjà visité à la Nouvelle-Orléans. Mais si je me fiais aux notes de Hall, seulement deux d'entre eux méritaient mon attention. Le 214 West Neely Street à Dallas et celui de Fort Worth. C'est donc à Fort Worth que je me suis rendu en sortant de chez Silent Mike. J'avais un plan de la ville, mais j'ai quand même dû m'arrêter trois fois pour demander mon chemin. Finalement, c'est une vieille dame noire qui tenait une petite épicerie de quartier qui m'a indiqué la bonne direction. Quand j'y suis enfin arrivé, j'ai vite compris pourquoi l'endroit avait été si difficile à localiser. L'extrémité en cul-de-sac de Mercedes Street n'était pas goudronnée. Des bicoques branlantes, à peine plus solides que des cabanes de métayers, bordaient la piste en terre battue. Celle-ci débouchait sur un immense parking quasi désert, au revêtement d'asphalte disloqué, parcouru par des boules d'amarante roule. Bordant ce terrain vague, un entrepôt en parpaing sur lequel on pouvait lire, badigeonné à la chaux en grandes lettres de 3 mètres de haut, « Propriété de Montgomery Ward » et « Tout contrevenant sera poursuivi » et « Garde à vous !» Sic. L'air empestait les distillats de craquage de pétrole en provenance de la région d'Odessa Midland et les égouts, beaucoup plus proches. Du rock'n'roll beuglait par les fenêtres ouvertes. Sur les 40 premiers mètres, je suis passé des Dovels à Johnny Burnett en transitant par Lee Dorsey et Chubby Checker. Des femmes étendaient leurs lessives sur des tourniquets rouillés. Elles étaient toutes en tablier, achetées sans doute chez Uniprix et Mammouth, et paraissaient toutes enceintes. Deux mioches crasseux, un garçon et une fille qui se ressemblaient trop pour ne pas être jumeaux, me regardèrent passer. Ils se tenaient par la main, debout dans leur allée d'argile craquelée. Le petit garçon, tout nu à l'exception d'une chaussette à un pied, brandissait un pistolet à bouchon. La fillette portait une couche-culotte pendouillante et un t-shirt à l'effigie de Mickey. Elle avait à la main une poupée en plastique aussi crasseuse qu'elle. Deux types torse nus, cigarettes au coin de la lippe, se faisaient des passes avec un ballon de football d'une cour à l'autre. Derrière eux, un coq et deux poules déplumées picoraient dans la poussière près d'un chien famélique endormi ou bien mort. Je me suis rangé en face du 2703 où Lee emménagerait avec sa femme et sa fille quand il ne pourrait plus supporter la marque pernicieuse d'amour castrateur de Marguerite Oswald. Deux bandes de béton conduisaient à une plaque de terre pelée souillée d'huile où, dans un meilleur quartier de la ville, aurait été construit un garage. La friche d'herbe au bison qui tenait lieu de pelouse était jonchée de jouets en plastique bon marché. Une fillette en short rose en loque tapait dans un ballon de football qu'elle faisait rebondir inlassablement contre le mur de la maison. Chaque fois que la balle heurtait le parement de bois, elle criait « Chumba !» Une femme avec de gros bigoudis bleus et une cigarette au bec passa la tête à la fenêtre et braya « Si tu continues, Rosette !» « Je sors et je t'en colle une !» Puis elle me vit. « Ce que vous voulez, vous ? Si c'est pour une facture, c'est pas la peine. C'est mon mari qui s'en occupe. Et il est parti bosser aujourd'hui. »«
Ce n'est pas pour une facture, » lui ai-je assuré. Rosette tira dans le ballon de foot, l'envoyant vicieusement vers moi en montrant les dents. Quand j'ai réceptionné la balle de l'intérieur du pied et la lui ai renvoyée doucement, son rictus s'est changé en un sourire réticent.
« Je voulais juste vous parler une seconde. Tendez une minute alors, je suis pas présentable. »
Sa tête disparut à l'intérieur. J'ai attendu. Rosette tira encore dans le ballon, l'envoyant bien haut cette fois.
« Chumba !»
Mais j'ai réussi à le rattraper sur la paume de la main avant qu'il ne heurte la maison.
« Pas avec les mains, espèce de vieux dégueulasse !»
me lança la gamine.
« C'est un pénalty !»« Rosette ! Qu'est-ce que je t'ai dit si j'entends encore des gros mots ?»
Maman sortait sur le perron en nouant un mince foulard sur ses rouleaux qui, ainsi emmaillotés, ressemblaient à de gros cocons d'insectes. Le genre qui, à l'éclosion, pourrait s'avérer venimeux.
« Putain de vieux dégueulasse !»
glapit Rosette. et elle détala dans Mercedes Street en direction de l'entrepôt de la Monkey Ward, tapant dans sa balle et riant comme une folle.
« Ce que vous voulez ?»
Moment avait dans les 22 ans, tirant sur les 50. Il lui manquait plusieurs dents et elle avait un reste d'œil au beurre noir décoloré.
« Je voudrais vous poser quelques questions. »«
En quoi mes affaires, c'est vos affaires ?»
J'ai sorti mon portefeuille et lui ai tendu un billet de $5.
« Posez pas de questions et je vous raconterai pas de mensonges. »«
Oh, vous êtes pas d'ici, vous ? Vous avez l'accent yankee ?»«
Voulez-vous cet argent ou non, madame ?»«
Ça dépend de vos questions. »«
Comptez pas que je vous donne ma putain de taille de soutien-gorge. »
« Je veux savoir depuis combien de temps vous habitez ici, pour commencer. »«
Dans cette baraque ?»«
6 semaines, je dirais. » »«
Harry pensait trouver de l'embauche à la Monkey Ward, mais il n'y en a pas. »«
Alors il est allé voir chez Manpower. »«
Vous connaissez ?»«
Travaille à la journée. »«
Ouais. »« Et il bosse qu'avec des négros. »« $9 par jour pour se crever la paillasse au bord de la route avec une tribu de négros. »
Il dit qu'il se croirait revenu au pénitencier de West Texas.
Combien payez-vous de loyer ?
50 par mois.
Meublé ?
Semi, enfin, comme on dit. Un méchant lit et une méchante cuisinière à gaz qui nous tuera tous un de ces jours.
Et je vous ferai pas rentrer. Alors c'est pas la peine de demander. Je vous connais pas, ni de devant, ni de dedans.
Semi-meublé, lampe comprise ?
« Non mais vous êtes fada ! » !»«
Oui ou non ?»«
Oui, genre une ou deux. Une et marche et une et marche pas. »«
Moi, je reste pas là. Plutôt aller me pendre. Il dit qu'il veut pas retourner à Moselle, vivre chez ma mère. Mais tant pire. Moi, je reste pas ici. »«
Vous la sentez, cette odeur ?»«
Oui, madame. »«
C'est l'odeur de la merde, mon mignon. » Oh, pas la merde de chat, pas la merde de chien, non, c'est la merde des gens. Bosser avec des nègres, c'est une chose, mais vivre comme eux.
Pas pour moi, monsieur. Vous avez terminé ?
Non, pas tout à fait, même si j'aurais bien voulu. Elle me dégoûtait, et je me dégoûtais d'oser la juger. Elle était prisonnière de son temps, de ses choix, et de cette rue empuantie par la merde. Mais c'était les rouleaux sous le foulard jaune qui me captivaient. Ces gros insectes bleus attendant d'éclore.
Personne ne reste ici longtemps, je suppose.
Dans Cedar Street ?
Elle agita sa cigarette en direction de la surface de terre battue menant au parking désert et au vaste entrepôt rempli de belles choses qu'elle ne posséderait jamais. En direction des bicoques serrées les unes contre les autres avec leurs porches en parpaing effrité et leurs fenêtres aux carreaux cassés rafistolés avec du carton. En direction des mioches dégoûtants. En direction des vieilles bagnoles bouffées par la rouille. Des Ford, des Hudson, des Studebaker Larks. En direction du ciel implacable du Texas. Puis, elle éclata d'un rire terrible, empli d'humour et de désespoir.
Ça, monsieur, c'est un arrêt de bus sur la route de nulle part. Moi et la Zazoche, on va pas nous empêcher de mettre les voiles pour Moselle. Et si le Harry y veut pas venir avec nous, ben, on mettra les voiles sans lui.
J'ai sorti le plan de la ville de ma poche, en ai déchiré une bande et y ai griffonné mon numéro de téléphone de Jody. Puis j'ai rajouté un billet de $5 et lui ai tendu le tout. Elle le regarda sans le prendre.
Qu'est-ce que vous voulez que je fiche avec votre numéro de téléphone ? Je l'ai même pas, moi, le téléphone. C'est même pas dans le secteur Dallas-Fort Worth, de toute façon. C'est un foutu appel longue distance.
Appelez-moi quand vous êtes prêt de partir, d'accord ? C'est tout ce que je vous demande. Vous m'appelez pour me dire, monsieur, c'est la maman de Rosette et on s'en va. Rien de plus. Je la vis calculer dans sa tête. Ça ne lui prit pas longtemps. $10, c'était plus que ce que son mari gagnerait en travaillant toute la journée sous le soleil brûlant du Texas. Parce que chez Manpower, on se foutait pas mal des jours fériés payés une fois et demi le salaire de base. Et ça serait $10 dont monsieur n'entendrait jamais parler.
« Filez-moi 75 cents de plus,
me dit-elle.
« Pour l'appel longue distance. »«
Tenez, voici un dollar. Gardez tout. »«
Et n'oubliez pas. »«
J'oublierai pas. »«
Non, vous n'oublierez pas. »« Parce que si vous oubliez, je pourrai aller trouver votre mari et tout lui raconter. »
Il s'agit d'une affaire très importante, madame. Pour moi, c'est très important.
Comment vous appelez-vous à propos ?
Ivy Templeton.
J'en suis resté quoi ? Parmi les mauvaises herbes, les parfums de merde et de pétrole à demi raffinés et la fantastique odeur de paix du gaz naturel.
Monsieur ? Il y a quelque chose qui ne va pas ? Vous avez l'air tout chose tout d'un coup.
Non, non, c'est rien, j'ai dit.
Et peut-être que ce n'était rien. Templeton n'est pas un nom si rare.
Bien sûr, un homme peut se persuader de n'importe quoi s'il s'y applique de toutes ses forces. J'en suis la preuve vivante.
Et vous, vous appelez comment ?
Moi, je m'appelle pas, je lui ai répondu. C'est les autres qui m'appellent.
À cette boutade de garnement, elle s'est finalement fendue d'un sourire.
« Et vous m'appellerez, madame ?»«
Ouais, entendu. Allez, fichez le camp, maintenant. Et si vous m'écrasez cette sale vermine à la langue bien pendue en repartant, peut-être que vous me ferez une faveur. »
À mon retour à Jody, j'ai trouvé un mot punaisé sur ma porte. « George, voulez-vous bien m'appeler ? J'ai un service à vous demander. Sadie. » C'est justement ça le problème.
Ce qui voulait dire quoi exactement ?
Je suis rentré décrocher mon téléphone pour le savoir. Samedi prochain aurait lieu la soirée Sadie Hawkins du lycée de Denholm et la mère de l'entraîneur Borman, pensionnaire d'une maison de retraite médicalisée à Abilene, s'était fracturé la hanche.
L'entraîneur m'avait demandé de surveiller le bal avec lui. Il m'a dit, je le cite, « Vous ne pouvez pas refuser d'être présente à un bal qui porte presque le même nom que vous, si ?»« C'était pas plus tard que la semaine dernière, et moi, comme une idiote, j'ai accepté. »« Et maintenant, il s'en va à Abilene voir sa mère. Et moi, qu'est-ce que je fais ?»« Je surveille toute seule 200 adolescents de 16 ans shootés aux hormones sexuelles, se trémoussant sur le twist et le filly ?»« Non, je m'y vois pas. »« Je ferai quoi si des garçons apportent de la bière ?»
Il serait étonnant qu'ils ne le fassent pas, ai-je pensé, tout en jugeant préférable de ne pas le dire.
Ou s'il y a une bagarre sur le parking. Ellie Doherty m'a dit que l'année dernière, des garçons de Henderson avaient fait irruption dans la soirée. Et deux des leurs et deux des nôtres ont fini à l'hôpital. George, pouvez-vous m'aider ? S'il vous plaît.
Dois-je comprendre que je suis en train de me faire alpaguer par Sadie Dunhill pour la soirée Sadie Hawkins ?
Je souriais. L'idée d'aller au bal avec elle n'était pas exactement pour me déplaire.
Ne plaisantez pas, ce n'est pas drôle.
Sadie, je serai heureux d'en être avec vous. Aurais-je droit à une fleur à la boutonnière ?
Je vous accorderai volontiers une bouteille de champagne, si cela pouvait vous décider.
Elle réfléchit un instant.
Non, à la réflexion, pas avec mon salaire. Mais une bouteille de mousseux, d'accord.
Les portes ouvrent à 19h30, c'est ça ?
Je savais très bien à quelle heure elles ouvraient. Il y avait des affiches partout dans le lycée.
Exact.
Et ce sera juste une sono, sans orchestre. Tant mieux.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Les groupes musicaux peuvent être source de problèmes. Une fois, j'ai surveillé un bal de lycée où le batteur s'est mis à vendre de la bière maison à l'entracte. Vraiment une expérience agréable.
Y a-t-il eu des bagarres ?
Elle avait l'air non seulement horrifiée, mais fascinée.
Non, mais ça a vomi dans tous les coins. Sa bière était du genre costaud.
C'était en Floride ?
C'était à Lisbon Falls, en 2009. Mais je lui ai dit que oui, ça s'était passé en Floride. Et je lui ai répété que je serais heureux d'assurer la surveillance de la soirée avec elle.
Merci beaucoup, George.
Tout le plaisir est pour moi, ma petite dame.
Et c'était la pure vérité.